à Feltin, donc vendredi soir à partir de 18h, c'est place Beaumont. On fait une diffusion sonore, donc en fait d'une création qui s'appelle « Il faut de tout arbre pour faire une forêt ». Donc il y a cette séquence de montage, d'interviews, de toutes sortes de gens, on en reparlera, qui sont dispatchés dans l'espace. Donc il y a 7 pôles sonores et on peut écouter cette proposition qui aborde différents sujets autour de l'arbre et de la forêt. À 18h30, il y a Thierry Thévenin qui vient parler de la forêt nourricière, comment on peut se nourrir de la forêt, des plantes qu'on y trouve. Et puis ensuite, à 19h30, il y a un repas qui coûte 15 euros. Il faut réserver au numéro que tu donneras. Et puis le lendemain, au Bois de Croze, il y a une balade qui est menée par un animateur du PNR. En fait, c'est le responsable de la charte forestière qui s'appelle Thomas Mignot. Donc rendez-vous à 15h au gîte des Grands Bois. Et là, il y a à la fois donc cette promenade à travers la forêt, qui est une forêt ancienne, et puis la diffusion sur le parcours d'interviews autour de l'exploitation de la forêt, des enjeux environnementaux, du réchauffement climatique, avec la parole de scientifiques de l'INRA, donc qui sont vraiment spécialisés autour de l'arbre.
C'est quoi l'origine de ce projet, le dispositif « Il faut de tout arbre pour faire une forêt » ?
Ça vient en fait d'une envie donc de notre association, la Gaillarde, qui est implantée en Corrèze, de parler d'un territoire et aussi de récolter de la parole orale. Qu'est-ce qui fait lien sur un territoire ? Qu'est-ce que... on va dire le plus grand nombre de gens qui partagent ce territoire ont en commun. Et puis voilà, en parlant entre nous, on a pensé à l'arbre et évidemment la forêt. Et puis peu à peu, j'ai commencé à mener des interviews auprès des gens qui étaient autour, des paysans, des retraités, des enfants, toutes sortes de personnes. Puis peu à peu, ça a grossi, donc... Je me suis adressée à des forestiers et puis je suis allée voir les gens de l'INRA à Pierrotont, donc près de Bordeaux, qui eux sont vraiment, travaillent d'une façon très très pointue sur divers aspects de l'arbre et de la forêt. Et puis le titre, il faut de tout arbre pour faire une forêt, c'est la réponse à une question que je posais à mon voisin agriculteur qui est à la retraite. Et quand je lui demandais quel était son arbre préféré, il m'a répondu aucun. Il me dit il faut de tout arbre pour faire une forêt. Et j'ai trouvé ça très beau et aussi très emblématique du projet, puisque c'est en fait un projet sur l'arbre et sur la forêt, mais c'est peut-être encore plus un projet sur la société, sur comment on fait le commun, comment on se construit une société, comment faire entendre la parole de toutes sortes de gens, comment les faire dialoguer par l'intermédiaire de ce dispositif.
Ça a été quoi les différentes étapes de la création de ce projet entre le moment où vous avez décidé de faire de l'arbre un point de départ pour réaliser le portrait d'un territoire et l'installation sonore qu'on va trouver à Feltin ce vendredi et la balade sonore de ce samedi dans les Bois de Croze?
C'est un travail de longue haleine. Au départ, ça a été en fait des enregistrements très sauvages, en fait, quand même construit toujours sur le même questionnaire qui était, pour tout le monde, c'était les mêmes questions, donc, et avec un peu peut-être l'urgence de recueillir la parole de personnes qui allaient disparaître, qui pouvaient témoigner aussi d'une expérience ancienne de la forêt, où c'était pas juste un environnement récréatif, mais où il y avait un vrai partage de vie, un vrai partage économique entre l'homme et la forêt. Donc il y a eu toute cette phase de collecte d'interviews. Et puis après, il y a eu des montages, une première phase de montage qu'on a présentée en 2015 à Meillard, donc en Corrèze, envers les gens qui avaient participé au projet. On a édité un petit CD Mais tout ça, c'était fait sur les fonds propres. Il n'y avait pas eu de subvention. Et puis, voilà, je suis allée parler du projet au groupe d'histoire des forêts françaises. Donc ça, c'était à Paris, en diffusant un montage sonore et en écrivant un article dans le groupe d'histoire des forêts françaises, donc qui rassemble tout un tas de personnes intéressées par la forêt, qu'ils soient ethnologues, des gens de l'ONF, des gens des ponts et des chaussées. De là, peu à peu, est né le projet donc de cette diffusion sonore à Feltin, parce que j'ai contacté Quartier Rouge et Pomme Boucher. Et puis, elle m'a dit, mais ça serait chouette voilà, de faire appel à un plasticien sonore. Et c'est à ce moment-là que Cédric Perronnet est arrivé sur le projet. Et à partir donc des séquences construites avec les interviews, avec les 7 thématiques qu'on avait choisies, il a fait tout un travail sonore, plastique, d'interprétation, de, on pourrait dire de, aussi de narration, de récit, parce que tout à coup, ces séquences, ça devient comme des petits films. C'est ça qui est très beau dans ce travail, c'est que tout à coup, il y a les voix, mais derrière, il y a autre chose qui se passe. Et dans ce décalage, dans ce dialogue, ou parfois ce contraste entre les voix et le paysage sonore, il y a d'autres images qui naissent.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail ta rencontre et ton travail avec Cédric Perronnet ?
La rencontre, c'est Pomme Boucher qui l'a organisée. Parce que moi, je ne connaissais pas Cédric, mais elle avait travaillé avec lui. Et c'était assez marrant, parce que c'était une surprise, finalement. Je lui ai envoyé les séquences, il les a écoutées, enfin, des extraits de séquences, il les a écoutées, puis il a dit « Ok, ouais, d'accord, ça m'inspire ». Et puis ensuite, on a travaillé plus finement, d'abord le montage de la parole, et ensuite, Cédric est venu comme un scénographe, un décorateur, un musicien, un peintre même, je vais dire ça, amener une harmonie, mettre une autre narration, mettre des sons, mettre de la musique, on va dire magnifier, mettre en lumière, je trouve, voilà, la parole. Et ça, c'était aussi très chouette de découvrir son travail qui changeait les couleurs des interviews. Donc c'était une belle surprise.
Tu es allé à la rencontre des habitants de la commune de Meillard avec un corpus composé de 14 questions. Comment tu as élaboré et choisi ces 14 questions ?
Eh bien, j'étais pas toute seule. On était plusieurs personnes de l'association et on a réfléchi ensemble une soirée. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait, comment formuler les choses simplement ? Comment amener une progression aussi dans les questions. Le questionnaire, c'est le fruit vraiment d'un travail collectif.
Comment ont réagi les habitants de la commune de Meillard quand tu t'es présenté à eux avec ces différentes questions ?
Bah, plutôt bien. Déjà, j'en connaissais beaucoup. Donc, il y avait vraiment un rapport de familiarité, de confiance qui était là. Vraiment bien accueilli. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, les gens, ils ont envie de témoigner, ils ont envie de parler. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Puis, c'est aussi des gens à qui on donne pas forcément beaucoup la parole. Au départ, ça a commencé, c'était l'anti-discours de spécialistes. Et c'est aussi des gens qui sont habitués à la parole orale, hein, et donc à une narration spontanée. Et ça, c'est finalement... Je me suis aperçue, alors bon, c'est pas très gentil pour les spécialistes, mais que cette façon, voilà, de parler, quoi, d'oralité, cette façon de raconter des histoires, de partir de l'expérience, de l'anecdote, du vécu, était beaucoup plus forte et donnait au niveau sonore un résultat qui nous emportait beaucoup plus que le discours des spécialistes.
Tu viens de parler plusieurs fois des spécialistes. À un moment, vous avez néanmoins choisi d'élargir le champ du questionnement en interviewant des scientifiques et donc justement des spécialistes. Pourquoi faire ce choix ?
Parce que au bout d'un moment, ce qu'on a vu, c'est que les réponses commençaient à se ressembler. C'est-à-dire qu'on était sur un public d'agriculteurs, de gens qui avaient un usage de la forêt récréatif, qu'ils soient retraités ou promeneurs ou voilà. Du coup, on arrivait un peu à la fin de nos anecdotes et de nos questionnements, quoi. On avait assez de matière, disons. Et puis, quand même, malgré tout, c'est aussi important d'ouvrir le champ et d'ouvrir le champ sur des gens qui ont une vision économique, comme les forestiers, mais qui néanmoins, eux, ont une parole pareille, en fait, très incarnée, parce qu'ils sont dans le sensible. Et malgré tout, d'ouvrir aussi aux scientifiques, parce qu'il y a quand même des gens qui font des travaux extraordinaires. Étudier le système racinaire des arbres comme ils le font, c'est incroyable, c'est un travail de toute une vie. Et parmi ces scientifiques, il y en a qui sont... c'est un objet de passion, l'arbre. C'est pas... Il n'y a pas de recul, disons. Il y a très vite, finalement, dans les gens que j'ai trouvés, il y avait aussi un discours qui était celui d'une passion. Et puis, où ils exprimaient aussi leur questionnement face au réchauffement climatique, leur colère, hein, de voir que rien n'est fait. Je pourrais dire qu'il y avait un engagement vraiment sociétal.
Tu parles de passion, de questionnement, de colère. Est-ce que parmi tous les témoignages recueillis, vous avez noté des points communs importants et des différences importantes, elles aussi ?
Chacun a quelque chose à raconter autour de l'arbre et de la forêt. Et parfois, ce n'est pas là où on s'y attend. Quelque chose qui est assez marrant que j'ai remarqué, c'est que souvent, les gens ramènent la découverte de la forêt ou même de l'arbre à leur enfance et en particulier à leur grand-père qui les accompagnait dans la forêt. Donc il y a une dimension affective très forte. Pour beaucoup de gens, la forêt c'est quand même la vie, la renaissance, le printemps, l'éternité. Et la chose que je remarque, c'est qu'au fond, quand les gens parlent de l'arbre et ou de la forêt, ils parlent beaucoup d'eux, en particulier quand ils parlent de l'arbre. C'est un symbole qui nous ressemble. Et en fait, pour beaucoup, ce que les gens racontent, c'est des moments de leur vie, des expériences de vie. Il y a une très forte identification avec l'arbre.
Ce dont tu parles, c'est ce que tu appelles la géographie personnelle ou la cartographie sensible ?
Oui, c'est à la fois ça. Après, la cartographie sensible, c'est voilà, comment on regarde les mêmes paysages. Est-ce que les gens qui sont dans le même milieu, dans le même paysage, ont quelque chose en commun au niveau de la perception de ces paysages. J'imagine que si le projet avait été mené dans le sud, par exemple dans une forêt méditerranéenne, les réponses n'auraient pas été les mêmes. Il y a quand même un fort ancrage dans le territoire limousin.
C'est ce qui fait que ce projet se trouve, comme tu le dis, à la lisière de la sociologie et de l'art. Comment on fait cohabiter sociologie et art dans un même projet ?
En fait, je ne sais pas. C'est quelque chose que j'essaye de faire. Hein, parce que voilà, moi, je suis plasticienne, hein, metteur en scène. Après, ben, j'imagine, par exemple, qu'il y a des tas de films documentaires. Ce qui me vient, bon, c'est Jean Rouch, par exemple. Il fait cohabiter très bien son travail d'ethnologue avec un vrai travail artistique, hein, une vraie mise en scène, un vrai sens de la narration. Et puis, je pense qu'en plus, dans la vie, il y a beaucoup de moments qui sont des purs moments artistiques, quoi. Dans un sujet comme ça, la forêt, l'arbre, c'est tellement esthétique que les images que les gens traversent, c'est presque parfois comme s'ils peignaient des tableaux, quoi. J'essaie pas de tirer des conclusions ou de faire des statistiques ou d'analyser, en fait, ce que les gens racontent. J'essaie plutôt de le mettre en scène, en fait.
Tu as mis en scène ces différents témoignages recueillis en 7 séquences narratives, des séquences qui renvoient aux différents aspects de la relation homme-végétal. Alors ces séquences sont nommées la vie et la renaissance, la forêt détruite, la forêt nourricière, l'arbre imaginaire, la forêt et le temps, la forêt imaginaire et enfin le corps de l'arbre. Pourquoi 7 séquences narratives et pourquoi ces différents thèmes ?
Pourquoi 7 ? Parce qu'au tout départ, enfin, il y avait aussi un autre aspect dont je n'ai pas parlé, au tout départ du projet. Donc, je m'étais associée à d'autres amis artistes et on avait comme idée de faire une grande balade nocturne fantasmagorique autour des sens et de l'arbre et de la forêt. Et puis, cette chose qui nécessitait de la vidéo, du sonore, tout ça était beaucoup trop cher, en fait, beaucoup trop compliqué à mettre en œuvre. Du coup, moi, j'ai continué le projet, je me suis concentrée sur les interviews. Alors, pourquoi le choix de ces sujets? Ben parce que c'est des choses qui se sont dessinées peu à peu en regardant la collecte. C'est comme s'il y avait cette collecte, et puis que ben on s'est dit, oui, tiens, qu'est-ce qui relie les choses? Comment les remélanger? Comment pas faire, par exemple, cette question, quelle est ta saison préférée? Parce que ça n'a pas tellement de. C'est pas très fort. Si on va écouter toutes les réponses à la queue leu-leu, c'est pas très intéressant. Mais si on pense à la forêt nourricière, quand les gens ils parlent de l'automne, ils parlent de la forêt nourricière. Voilà comment ça s'est fait, c'est quand.
Depuis le début de l'entretien, on parle beaucoup de la forêt. Différentes séquences de ton travail s'appellent d'ailleurs la forêt nourricière, la forêt imaginaire. Est-ce qu'on parle de la forêt ou est-ce qu'on parle de plusieurs forêts? Est-ce qu'il y a une forêt ou des forêts?
Ben bien sûr qu'il y a plusieurs forêts. Bien sûr qu'il y a les forêts de résineux, il y a les forêts de feuillus, il y a des forêts jeunes, des forêts anciennes. Bien sûr qu'il y a plusieurs forêts, des forêts méditerranéennes, des forêts. Enfin voilà. Et justement, ça c'est aussi abordé dans les interviews. Les scientifiques et les forestiers en parlent notamment et font bien des différences, notamment sur la gestion de la forêt. Et puis sur aussi les espèces qui les habitent et même les usages qui sont pas les mêmes. Si on était dans les Vosges, le rapport à l'exploitation forestière pure est beaucoup plus ancien dans l'Est où il y a une vraie tradition forestière et beaucoup plus récent en Limousin, en Nouvelle-Aquitaine, encore plus avec la forêt des Landes qui est une forêt très jeune. Hein. Et puis sur le PNR, les vaches aussi, c'est très très récent cette forêt.
Et justement, quel est ton rapport à la forêt? C'est quoi ton premier souvenir lié à la forêt?
C'est une petite forêt, petite bois de châtaigniers qui est à côté de chez moi et où j'allais avec mon grand-père justement et faire des cabanes et chercher des champignons. Et voilà. Après, particulièrement, moi, il y a un aspect de la forêt qui me fascine, c'est l'entremêlement et la canopée. La façon dont la lumière passe à travers les feuilles. Pour moi, c'est quelque chose, voilà, c'est le plus beau des vitrails.
Dans ton travail, tu poses une question, la question suivante. Faisons-nous encore partie de la nature ou sommes-nous devenus uniquement des êtres de culture, des êtres entièrement rationnels et civilisés? Est-ce que tu peux répondre à ta propre question?
J'ai pas forcément envie de donner une réponse. Parce que je crois qu'en fait, d'abord, pour la majorité des questions, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas une seule réponse. En fait, ce projet, il montre ça. Mais c'est une vraie question que je me pose beaucoup. C'est-à-dire, comment, finalement, l'idée de la modernité, l'idée du progrès, l'idée même peut-être de penser l'être humain d'une façon philosophique, a pu aussi, l'arracher de la nature. Faire une vraie coupure avec sa façon de percevoir et d'entrer aussi en lien avec des autres mondes, le monde végétal, le monde animal, ça n'a pas toujours été le cas. Toutes les pratiques chamaniques, on sait bien que les gens étaient reliés, enfin même penser le cosmos comme une interpénétration de tous ces mondes. Donc ma question, c'est qu'est-ce que nous, enfin, hommes et femmes occidentaux, comment on l'aperçoit la nature? Je crois que la réponse est quand même différente suivant les individus. Mais c'est vrai qu'il y a cette perception très utilitaire et très économique. Hein. Et en même temps, à travers tous les interviews, ce qui surgit, c'est un émerveillement. C'est quelque chose de très intuitif, de très sensible, de très relié encore à la nature.